RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
Éviter un désastre humanitaire face à une vague de refoulement sans précédent. Les ambitions du Niger, qui veut aider l'Organisation internationale pour les migrations, à renvoyer des milliers de migrants dans leur pays d'origine après avoir été expulsés d'Algérie. Dans le nord du Niger, leurs conditions de vie sont insoutenables, nous dit le coordonnateur de l'ONG Alarm Phone Sahara. Les réactions continuent de pleuvoir après l'officialisation de la dissolution de tous les partis politiques au Mali. On vous a présenté les réactions dans le pays. Les réactions internationales ce dimanche, celle des diasporas. Une trentaine de personnes réunies à Paris hier ont dénoncé une dérive autoritaire. La collaboration entre les Wazalendo et l'armée congolaise remise en question dans un rapport, elle pourrait affaiblir l'armée et renforcer l'influence de ces groupes armés dont la légitimité grandit déjà. Et puis, les États-Unis délaissent-ils l'Afrique ? Donald Trump, oui, probablement, mais le département d'État américain, lui, mettrait la pression sur des gouvernements du continent pour l'adoption de Starlink, le réseau Internet privé, propriété du milliardaire Elon Musk. Le Niger tend donc la main à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, pour rapatrier plus de 4000 migrants vers leur pays d'origine d'ici juillet. C'est le général Ibra Boula Maïssa, gouverneur de la région d'Agadez, qui l'annonce. Objectif, et je le cite, éviter un désastre humanitaire, lui qui décrit une vague de refoulement sans précédent, alors que, déjà fréquentes, les expulsions par l'Algérie de migrants vers le nord du Niger ont explosé. Au mois d'avril, la police de la localité d'Assamaka en a dénombré plus de 6000 contre 7000 pour les trois premiers mois de l'année. Résultat, les centres d'hébergement sont surchargés et les conditions de vie s'y détériorent à vue d'œil. Je vous propose d'écouter Azizou Chehou, coordonnateur de l'ONG Alarm Phone Sahara.
Le gouvernement, de manière générale, a pris la question à bras le corps. C'est la deuxième mission officielle qui se déplace pour voir des visus ce qui se passe à Assamaka. Et si les autorités pensent qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement, nous trouvons que c'est tout à fait normal parce que ces personnes-là ont été refoulées des pays du Maghreb, en particulier de l'Algérie, et ils sont à Assamaka, une petite bourgade avec moins d'opportunités, avec une température maximale de 47 voire 48 degrés, et sans abri, les centres de transit étant débordés. Et si effectivement il peut y avoir des discussions entre les différents pays d'origine de ces personnes dans cette situation, et pour leur rapatriement, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que la situation est insoutenable du côté de Assamaka, comme il a été dit.
Azizou Chehou avec Magali Lagrange. Migration encore, et c'est plus de 270 personnes secourues en Méditerranée hier. C'est le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée qui est intervenu à trois reprises sur trois embarcations de fortune au large de la Tunisie et de Malte. C'est d'ailleurs l'ONG Alarm Phone Sahara qui a alerté l'ONG pour signaler l'une des embarcations surchargées, des candidats originaires des territoires palestiniens, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée ou encore du Soudan. Tous ont pu recevoir des soins et être mis à l'abri. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande aux autorités maliennes d'abroger un décret qualifié de draconien, celui qui a acté la dissolution de tous les partis politiques du pays cette semaine. Toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains, déclare le haut commissaire Volker Türk. Pendant ce temps, en France, des membres de la diaspora malienne se sont mobilisés contre le pouvoir en place à Bamako. Une trentaine de personnes présentes ce samedi devant l'ambassade du Mali à Paris ont dénoncé une dérive autoritaire, une grave censure et le recul de la liberté d'expression dans le pays. Certains ont réagi au micro RFI de Louekal.
J'ai la famille là-bas, j'ai des amis. Ils se sentent menacés. Il y en a qui ont peur de discuter avec toi au téléphone, mais c'est très grave quand même. C'est grave.
Ça ne va pas au Mali. Tout le monde a peur. On a mis de la colle dans nos bouches. On n'a plus le droit de parler. Même si on a envie d'aller chez nous, on ne peut pas, on a peur. Parce que quand tu parles, on te prend, on te met en prison. C'est dur.
Il y avait une femme qu'on appelle Madame Sidibé Oroukiat Doumbia qui a vraiment mené une lutte à l'encontre de la vie chère au Mali. La dame a été aussi incarcérée il y a au moins 23 mois. Il a osé parler, il a osé dire ce qui ne va pas. Ça veut dire que tous les Maliens, aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'exprimer, on est là, voilà.
On lance un appel aux autorités maliennes qui sont les dirigeants de cette transition. Il faut qu'ils essayent d'organiser les élections et de restaurer la démocratie dans ce pays qui est le Mali.
Un témoignage recueilli au micro de Lou Ekal du Service France de RFI. Clap de fin sur la visite d'Ousmane Sonko à Ouagadougou. Le Premier ministre sénégalais a rencontré le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et a assisté hier à l'inauguration dédiée au mausolée Thomas Sankara et à ses 12 compagnons assassinés en 1987. Ousmane Sonko, qui a plaidé pour une redynamisation de la coopération entre Dakar et Ouagadougou, notamment sur le plan sécuritaire, et a apporté son soutien face à la menace terroriste. Et si la collaboration dans l'est de la République démocratique du Congo entre les combattants Wazalendo et l'armée congolaise pouvait à l'avenir venir entraver un éventuel accord de paix? C'est en tout cas les inquiétudes soulevées par le groupe d'études sur le Congo et l'Institut Ebouteli dans un rapport qui revient sur les origines de cette stratégie d'externalisation du conflit, mais aussi sur ses motivations et ses conséquences sur les populations locales. Mais alors, quelles sont les principales craintes exprimées? Élément de réponse avec Réagan Miviri, chercheur à l'Institut Ebouteli.
Une dynamique à suivre parce que on ne sait pas ce que ça va devenir avec les grands bouleversements qui peuvent arriver, mais notamment aussi avec toutes les pistes de solutions à cette crise. Il faudra tenir compte de cette dimension des armes qui ont été données à ces différents groupes armés et se rassurer que l'on puisse trouver une solution au potentiel problème d'insécurité qui émanerait encore une fois de cette phase de la sous-traitance de la sécurité aux groupes armés.
Dans votre rapport, vous revenez également sur ce que peuvent être les conséquences de cette sous-traitance des aspects sécuritaires de la gouvernance.
Déjà, une des conséquences, c'est que ça affaiblit l'armée et ça renforce des acteurs qui ne sont pas étatiques, qui grandissent en légitimité, et ce qui fait que à la longue, ça risque d'être compliqué en fait de remettre l'autorité de l'État sur des territoires que contrôleraient ces acteurs armés qui ont été légitimés par ce label Ouazalendo.
Réagan Miviri au micro de Patient Ligodi. Un projet de loi présenté par le gouvernement congolais à propos d'une potentielle réforme de la police nationale qui pourrait nécessiter 2,3 milliards de dollars sur 5 ans jusqu'à 2029, avec 3 priorités: la professionnalisation, le renforcement du cadre institutionnel et le dialogue entre la police et la population. Et puis à Lomé, le président togolais Fornia Singbe a réuni ce samedi les anciens chefs d'État membres du panel de facilitateurs désignés par l'Union africaine pour le processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Objectif: harmoniser les approches de médiation et renforcer la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, dont la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC, le Qatar et les États-Unis. Washington, justement, qui d'après des enquêtes parues dans la presse américaine, mettrait la pression sur plusieurs capitales africaines via le département d'État pour le compte de l'une des sociétés du milliardaire Elon Musk, Starlink, ce réseau internet satellitaire privé. On le sait, les États-Unis de Donald Trump, en tout cas, ne portent que très peu d'intérêt au continent. Le président américain ne s'est d'ailleurs pas rendu une seule fois en Afrique lors de son premier passage à la Maison-Blanche. Mais Washington y mène tout de même une guerre d'influence, au moins pour tenter de contrer l'omniprésence de Pékin. Plus de détails avec Nathanaël Vitran.
Une enquête en deux temps. Début mai, le Washington Post révèle que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a donné pour mission à ses équipes de tout faire pour faciliter l'adoption de Starlink. Objectif: contrer la mainmise technologique chinoise sur le continent. En cette fin de semaine, le média d'investigation ProPublica va plus loin et révèle la manière dont ces pressions s'exercent sur les dirigeants africains. Il est par exemple question de cette rencontre, début février, entre l'ambassadrice américaine en Gambie et le ministre gambien des télécoms. La diplomate ne se contente pas alors de faire la promotion agressive d'un service privé. Devant les réticences du ministre à offrir une procédure d'accréditation accélérée à Starlink, l'ambassadrice laisse entendre que cela pourrait avoir des conséquences sur un projet de développement des infrastructures en Gambie, soutenu par les États-Unis à hauteur de 25 millions de dollars. Une menace à peine voilée, d'autant plus concrète qu'Elon Musk a lui-même supervisé ces derniers mois de nombreuses coupes dans l'aide au développement. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, 5 pays africains, dont la RDC et le Tchad, ont accordé une licence à Starlink. Cité dans l'article, un un ancien ambassadeur américain résume, si un autre pays faisait la même chose, nous parlerions de corruption parce qu'il s'agit de corruption.
À la fin de ce journal à Cannes, où le 78e Festival International du Cinéma bat son plein, sur la croisette nombreux sont ceux qui viennent présenter leurs films. D'autres sont là pour rechercher des financements et des partenaires. C'est notamment le cas d'Eléonore Yameogo, réalisatrice franco-burkinabé mondialement reconnue. Elle participe au marché du film pour son projet intitulé Tata Gabi, un film documentaire qui se déroule dans le milieu des migrants subsahariens coincés par milliers à Casablanca, au Maroc, et parmi eux, de nombreuses femmes, Ouda Ibrahim.
Déjà dans son premier film, Paris, mon paradis, tourné en 2011, Eléonore Yameogo questionnait le bonheur que les émigrants africains sont venus chercher à Paris. Elle avait filmé en réalité l'enfer et la galère de la vie parisienne de trois Africains à Château Rouge. Elle casse le mythe d'une réussite facile entretenue en Afrique. Filmer la marge, le hors-champ, est également au cœur de son cinquième documentaire en projet. Elle compte mettre en lumière l'attente de femmes subsahariennes à Casablanca et leur désir de traverser vers l'autre rive de la Méditerranée. Elle vient au marché du film dans l'espoir de faire avancer son projet.
Au-delà de mon projet, pour moi, Cannes, c'est le lieu où il faut être quand on est cinéaste, parce que c'est un moment de communion, un moment de partage avec ses autres confrères cinéastes. Et c'est important de voir le travail des autres aussi. Moi, je me nourris du cinéma des autres pour mieux réinventer mon regard sur mon cinéma. Le plus grand défi, c'est à chaque fois comment trouver la bonne production pour vous accompagner dans votre projet de film. Il faut qu'il y ait beaucoup d'affinités.
Eléonore Yameogo lutte à travers les réalités qu'elle constate contre les illusions qui polluent la jeunesse de son pays, le Burkina, tout comme le reste de l'Afrique. Ouda Ibrahim, Festival de Cannes, RFI.
Cannes où se referme cette édition, Julien Coquel-Rouhem.
Merci des mots en piste. Bonne journée.